les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, c'est l'écho des Garrigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va commencer notre émission par, de l'antirépression, puisque on a au téléphone un prof de philo à Poitiers qui a des problèmes, on peut le dire, liés à ce qui s'est passé au début du mois de janvier. Rappelez-vous un peu l'attentat contre Charlie Hebdo et ses suites. Et justement, il y a un acharnement administratif et policier contre lui. Bon, voilà. Il va nous parler donc un peu de son histoire, de ce qui s'est passé. C'est vraiment de l'antirépression, notre début d'émission. Allez, bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, on dirait.
Je suis vraiment tombé des nues. Enfin, c'était assez hallucinant puisque une semaine et demie après les attentats, j'ai été convoqué dans le bureau en secret par des inspecteurs de l'éducation, enfin c'est des inspecteurs pédagogiques régionaux,
ouais,
et scolaires, ouais. Et puis pour faire une enquête. Ils m'ont dit qu'ils faisaient une enquête sur ce qu'il y avait été dit dans mes cours au sujet des attentats, dans les débats au sujet des attentats contre Charlie Hebdo. Voilà.
D'accord.
Et donc ça a duré une demi-heure, ils m'ont posé quelques questions. J'ai pas su tout de suite quelle classe c'était. Je pensais que c'était toutes les classes. Ils m'ont dit qu'il y avait des parents qui s'étaient plaints au rectorat. Bon, donc ça arrive assez souvent dans le lycée où je suis. Mais là, c'était bon. Ils ont utilisé l'artillerie lourde, quoi. Et puis le lendemain, donc ils m'ont dit que le soir même, le rapport était sur le bureau du recteur. Le lendemain, sur le bureau de la ministre. Et puis le mercredi à 8h, j'étais suspendu avec traitement.
Oui. Donc on peut rappeler que tu es prof de philo et que c'est vraiment là qu'il peut avoir vraiment des débats sur ce genre de sujet.
Bah oui. C'est
Oui. Peut-être aussi rappeler les conditions, hein, puisque en fait le 8 janvier, hein, donc par circulaire ministérielle, était organisée une minute de silence. Il y avait également un jour de deuil national qui avait été décrété, c'est-à-dire drapeau en berne. Et donc cette minute de silence était obligatoire pour les collèges et les lycées et facultative pour les maternelles et les primaires. Vous imaginez la minute de silence dans des grandes sections, quoi. Comment expliquer ça au moment? Enfin bon, passons là-dessus sur le ridicule. Et nous, ce dont on a entendu quand on a appris ton histoire et ta suspension, c'était, et malheureusement on n'a pas eu d'autres versions, puisque c'est pas souvent le cas, heureusement il y a des émissions de radio alternatives, c'était que tu aurais perturbé la minute de silence. C'est oui. Ce que t'étais, en tous les cas, c'est ce que les médias colportaient.
Tout de suite, ouais, c'est ce que le recteur a dit aux médias. c'est ce que le recteur a dit aux médias. C'est la première version.
Ouais.
C'est la première version que j'aurais perturbé la minute de silence, mais dommage, j'y étais pas.
Oui, t'avais quitté le lycée.
Oui, j'avais quitté le lycée, puisque la minute de silence, ouais, bon bref, je pouvais quitter le lycée, donc j'avais quitté le lycée, j'étais pas présent sur les lieux, donc je pouvais pas perturber la minute de silence.
Ouais.
Et alors, cette version a été abandonnée.
D'accord. Justement. Et toi, qu'est-ce que tu assumes en cette journée du 8 janvier, qu'est-ce que tu penses qui t'a été reproché, en fait?
Mais je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Le recteur a reçu l'intersyndicale des profs de mon lycée, du lycée Victor Hugo à Poitiers, et leur a dit que je savais très bien ce qui m'était reproché. Donc on m'a posé des questions, mais je ne sais pas ce qui m'est reproché. Donc j'attends devant mon dossier administratif vendredi prochain.
D'accord. C'est parmi nous, tiens, pendant que j'y pense, il y a l'un de nous qui fait la technique aujourd'hui, et il est prof aussi, et il a eu des gros problèmes, puisqu'il est passé en conseil de discipline, lui aussi, pour refus d'inspection. Donc, si tu, il peut te dire un peu comment que ça se passe, si tu le désires.
Oui, d'accord.
Mais lors de ton entretien préalable, tu y es allé seul, puisqu'on ne t'avait pas prévu que c'était un entretien préalable à une sanction administrative. Tu as donc pas pu, ni préparer une défense, ni exposer ton point de vue et être assisté.
Accompagné. Je ne pouvais pas être accompagné. Ils ont fait exprès, d'ailleurs, de me convoquer à 14h30, c'est le CPE qui est venu, pour 14h45. Donc, je pouvais pas, puis je savais pas la dernière fois pour la petite histoire. La dernière fois que ça s'est passé comme ça, que le CP est venu dans ma classe me prévenir de quelque chose, c'était que ma femme avait eu un accident de voiture. Donc j'étais un peu flippé, j'arrive dans le bureau de l'approviseur et elle me dit, donc il y a des inspecteurs qui veulent vous poser des questions là, concernant. Voilà. Donc ils ont tout fait pour que je puisse pas me faire accompagner, je puisse pas me défendre. Ils ont pas respecté les procédures. Enfin bon, on a droit normalement chez les flics, on a droit à un avocat quand même.
Bien sûr. Hein.
Oui, non, mais les procédures, c'est toujours à nous de les respecter, hein, pas à eux, tu le sais bien, depuis le temps que tu y es. Alors, première interrogation, réaction des collègues.
Ah oui, très très positive. Hein. À peu près une réunion par jour depuis l'affaire.
Ouais.
Qui a abouti jeudi dernier à une grève d'une cinquantaine de personnes. Cinquantaine de collègues qui ont fait grève, du lycée. Hein.
Ouais, c'est bien. Ouais, super.
Non, c'est bien, ouais. Super soutien. Soutien des élèves, soutien des parents d'élèves aussi, de la FCPE.
Alors, d'où il vient ce problème si même les parents, l'élève et les élèves te soutiennent alors qu'on te dit que c'est eux qui ont des choses à te reprocher? Qu'est-ce que tu as fait en cette journée du 8 janvier? Qu'est-ce que tu as fait de si particulier?
Franchement, je sais pas. Hein. Je sais pas. Non, c'est vrai que c'est compliqué, hein, de toute façon, rétrospectivement, de voir si on me donne pas. Le courrier du parent où c'est écrit, il a écrit quelque chose. Voilà, la citation, parce qu'il ne m'a même pas donné la citation des courriers des parents. Donc, je ne sais pas ce qu'il me reprochait.
Oui, des parents, c'est tout. Ce n'est qu'un seul, peut-être.
J'ai fait comme d'habitude, des renseignements pris. Ben, mes élèves m'ont dit, ben non, vous avez fait comme d'habitude. Alors, peut-être que d'habitude, c'est toujours, je frise l'apologie du terrorisme tout le temps.
En permanence,
ou je sais pas. Mais bon, c'est quand même curieux.
Ouais, c'est curieux. On va écouter tout de suite, tu vas commenter après, on pourra commenter aussi avec toi, ce que raconte Belkacem, Valo Belkacem, notre ministre de l'Éducation nationale. Justement, c'est un extrait au Parlement, juste après le...
Oui, l'école est en première ligne. L'école est en première ligne, elle sera ferme pour sanctionner, pour créer du dialogue éducatif, y compris avec les parents, car les parents sont des acteurs de la coéducation. L'école est en première ligne aussi pour répondre à une autre question, car même là où il n'y a pas eu d'incident, il y a eu de trop trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais » les « deux poids, deux mesures », pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là ? Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école qui est chargée de transmettre des valeurs. Et il nous faut nous interroger sur notre capacité à le faire. C'est ce que le Premier ministre a fait devant les recteurs hier. C'est la raison pour laquelle je mobilise l'ensemble de la communauté éducative pour que nous ne répondions pas que par des discours, mais par des actes forts. Merci.
Voilà.
Oui.
C'est terrible.
Terrible. Question insupportable. Hein. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire, toi, dans tes cours de philosophie, mais donc ton boulot, c'est de pas chercher ni à répondre aux questions, ni à susciter le questionnement chez les élèves, mais à transmettre des valeurs.
Voilà. Ouais, transmettre des valeurs, ouais. Et alors, ça, c'est un discours que j'ai entendu, qu'on entend depuis longtemps.
Bien sûr. Hein,
c'est de transmettre les valeurs de la République. Je rappelle que la laïcité et l'État étant une valeur de la République, il faut transmettre aussi la laïcité et l'État.
Ouais.
Non mais c'est, voilà. C'est ouais. C'est, j'étais en voilà. train de, je relisais un petit peu moi quelques éléments pour préparer l'émission et j'ai retrouvé la déclaration de François Guizot hein, aux instituteurs. On est en 1833. La foi dans la providence, la sainteté du devoir, la soumission à l'autorité paternelle, le respect dû aux lois, aux princes, aux droits de tous. Tels sont les sentiments que l'instituteur s'attachera à développer. Les devoirs de l'instituteur envers l'autorité sont plus clairs encore et non moins importants. Il est lui-même une autorité dans la commune. Comment donc donnerait-il l'exemple de l'insubordination, et oui Jean-François, tu es un mauvais exemple, comment ne respecterait-il pas les magistrats municipaux, l'autorité religieuse, les pouvoirs légaux qui maintiennent la sécurité publique? Donc en clair, pour simplifier, un bon élève comme un bon enseignant obéit et respecte la hiérarchie sociale, voilà.
Hein,
on ne le dit pas encore comme ça parce que c'est encore un peu sale, mais c'est la prochaine étape.
Oui, en plus, si tu veux, c'est toujours dans les moments où on parle d'unité nationale qu'il y a ce type de retour de trucs du 19e siècle, aux valeurs, etc. C'est toujours dans
certaines valeurs, surtout.
Bien sûr, certaines valeurs. C'est pas la valeur de l'autonomie.
L'égalité, la fraternité.
Oui,
il y a d'autres valeurs.
Il y a d'autres valeurs que ça, oui, tout à fait.
Ce qui est très curieux, c'est que parce qu'il y a une charte de la laïcité.
Ouais.
Et alors dans l'éducation nationale, et cette charte de la laïcité prône la neutralité politique.
D'accord.
Donc la neutralité politique et la neutralité religieuse. Et ils voulaient même rajouter la neutralité philosophique. Donc ça a été enlevé parce que là je sais pas comment on pourrait faire notre
comment si on peut pas faire court.
On ne pourrait plus faire court. Bon, mais neutralité politique. Ouais. Et ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est utiliser cette charte pour combattre les discours de Madame la ministre.
Ouais, tout à fait.
Parce que on voit bien que ce sont pas des discours.
C'est pas mon plaisir.
Ouais. Et il faut dire aussi que effectivement, tu l'as dit, c'est que bon, alors outre la répression dont tu es victime et le caractère sidérant des propos qu'on entend, c'est que cette mobilisation là, elle se contente pas de poser des objectifs, hein, elle donne aussi des éléments de méthode. Et alors là, on commence à comprendre un peu hein, vraiment ce qui se passe. Donc premier élément de méthode, compréhension et célébration des rites républicains et des symboles de la République nationale, drapeau, devise. Deuxième élément de méthode, règles de civilité et de politesse, mais aussi de la charte de la laïcité, comme tu l'as dit, qui seront expliquées aux élèves et à leurs parents. Là, on est quand même pas loin d'une espèce de mission civilisatrice, quoi, et qui est confiée en plus aux enseignants, alors que on sait aujourd'hui dans quel état sont les écoles et la fonction de prof, quoi. Moi, je suis extrêmement, et je t'interpelle là-dessus, et mes collègues enseignants et ex-enseignants, qu'est-ce qui s'est passé à l'école pour qu'on soit arrivé à un tel degré d'acceptation de réaction?
J'en sais rien. Moi, ce que je voulais, c'était faire un constat qu'il y a quelques années, on pouvait encore harmoniser notre fonction. Être fonctionnaire avec professeur de philosophie, quoi.
Oui, tout à fait.
Mais là, de plus en plus, non.
Ouais, puis il y a les profs d'histoire aussi qui ont les mêmes problèmes.
On voit bien que, et sur mon affaire, c'est emblématique parce que, non, c'est plus possible. Et c'est pour ça que je suis très soutenu par mes collègues. et mes collègues de philo.
Ouais.
Parce que c'est emblématique. Effectivement, on voit bien qu'on peut plus faire notre métier, qui est d'apprendre la pensée, d'apprendre à penser, l'esprit critique, tout ça. Et là, on nous demande un catéchisme, quoi, du catéchisme, ouais. quoi. Ce qui fait que c'est pas neutre, c'est pas neutre, c'est pas neutre.
Justement, on est à Poitiers. Hein. Il y a quelques temps, je crois que c'était au mois de novembre, Mediapart qui avait eu un document assez stupéfiant concernant l'Académie de Poitiers. C'était en fait un PowerPoint, je crois, qui devait être donné au chef d'établissement. Alors, c'était... je ne sais pas si tu as vu le PowerPoint ou pas.
Je l'ai vu, bien sûr. C'est scandaleux.
C'est un truc islamophobe comme ce n'était pas permis. Quoi.
Islamophobe, oui, et puis avec une bêtise.
Une bêtise, oui.
D'une bêtise, quoi, parce que de dire qu'il était maigre, parce que comment on reconnaissait les islamistes, parce que maigre à cause des jeûnes fréquents. Je faisais trop le ramadan, des trucs, le cal sur le front, quoi. Des habits... Des habits, je ne sais plus quoi, musulmans ou arabes, c'est pathétique, quoi. C'était le même recteur.
D'accord. Mais c'était une blague, hein, je pense.
ça aurait été une blague encore, mais non, c'était sérieux.
D'accord. Tes prochaines séances, alors, là, c'est quand?
Les prochaines séances, c'est donc vendredi, où je vais voir mon dossier administratif.
Ouais.
Tu y vas accompagné?
Oui, bien sûr, d'un avocat et de mon syndicat. Mm. Et puis, le 13 mars, après, je devrais passer en commission de discipline. Mais comme ils sont précipités, je sais pas, il faudra voir. Et puis, là, je devrais être convoqué chez les flics, parce que le procureur a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme. Je pense. Parce que des élèves ont été entendus et mes collègues ont été entendus.
D'accord. Donc toi, tu vas l'être aussi, certainement.
Ouais, certainement, oui, je pense.
Et quelle voie de recours tu as sur la partie, on va dire, boulot? Mais parce qu'après, il va y avoir la partie judiciaire, mais...
Oui. Mais sur la partie boulot, au niveau recours, il y a un recours gracieux, il y a des choses comme ça, mais de toute façon, c'est trop tard pour faire le recours gracieux, donc... Non, c'est la commission de discipline qui va se statuer.
Parce que là, potentiellement, tu es suspendu jusqu'à la fin de l'année. Hein.
Non, je veux 4 mois.
Attendez, je compte, ça fait juin, c'est ça? Ouais, d'accord.
Non, pas 4. Oh. Avril-mai.
Avril-mai.
Fin mai.
Oui, après
mais 4 mois maximum.
D'accord. Et ensuite...
C'est pour mon bien.
C'est pour ton bien, pourquoi
pour me protéger des islamistes.
et tu gardes ton traitement ou pas?
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Ouais.
Et tu as été remplacé?
Ça serait une sanction. Mm. Comment? Je suis remplacé.
Ouais.
Ça, c'était le prof de philo de notre lycée. Ça faisait 15 jours qu'ils n'avaient pas de prof. Il n'était pas remplacé. Là, le lendemain, il y avait un remplacé.
D'accord.
Ah bah oui, non, mais quand c'est eux qui créent les dates sans, oui.
Ah mais ils voulaient pas que les parents s'énervent.
Bah oui, ils peuvent pas...
Ils se sont énervés quand même.
Et au niveau de la ville de Poitiers, c'est une histoire dont on parle? Ça agite un peu le marais?
Un peu, je connais beaucoup de monde. Et puis, c'est quand même un petit microcosme, je sais pas comment dire, mais... Il y a quand même, j'ai eu pas mal de problèmes et je suis ciblé sur la ville de Poitiers, quoi.
D'accord, ah oui, c'est pas quelque chose qui vient non plus de nulle part.
Ah ben non, ça vient pas de nulle part.
Alors justement, est-ce que tu crois pas qu'il y a quand même un lien, quoi, certainement, par rapport à ton militantisme, certains nombres d'années, quoi.
Bah oui, puisque là je passe, j'ai fait appel sur une condamnation en diffamation par un hébergeur social, on va dire, une association qui héberge des immigrés, enfin
demandeurs d'asile. Hein, ouais.
Voilà, donc là j'ai fait appel parce que j'ai été condamné à 2500 euros, etc. Donc, en tout.
Ouais.
Et pour diffamation. Et puis quand on remonte, j'avais pas mal de procédures, j'étais entendu pas mal par les flics par rapport surtout au droit au logement.
D'accord.
Donc, pour des violations de domicile, de effraction et dégradation, qu'est-ce qu'il y avait, tag de menace de mort, enfin bon. Il n'y a jamais eu de... ça, il n'y a jamais eu de suite. Il y a même eu une perquise dans mon lycée, déjà, c'était en 2012. Il y a eu une perquise, parce que l'proviseur avait refusé de donner la liste et les adresses de mes élèves de l'année précédente.
Ouais.
Et donc, il y avait eu une commission rogatoire, perquisition, ils avaient récupéré les adresses et ils avaient interrogé pratiquement tous les élèves, sur un de mes cours.
Sur un de tes cours?
Ouais.
Là-haut.
Ah oui, ça avait fait, bon, j'avais prévenu ma hiérarchie, mais ils n'avaient pas bougé, ils n'avaient pas trouvé ça extraordinaire. J'avais dit à mon inspectrice que j'avais été inspecté par les flics. Et que les flics avaient fait son boulot, bon. Mais elle n'avait pas trouvé ça. Voilà. Elle n'avait pas trop le temps de me donner rendez-vous, tout ça. Bon.
Mais tu vas me donner envie de retourner au lycée. Qu'est-ce qu'ils ont de si intéressant, tes cours, pour que les flics aient envie de venir?
Je sais pas. Bon, après, je vais faire ma fausse modestie. Je sais pas. Mais bon, c'est vrai que. J'ai toujours été engagé dans des mouvements pédagogiques plutôt autogestionnaires,
ouais.
Non directifs, on va dire. Voilà, donc c'est avec toujours des expérimentations un peu, voilà, c'est qui détonne un peu, et puis bon, j'ai une méthode un peu provocatrice, enfin à base de provocation et pour faire réfléchir, voilà.
Bah, tu fais de la philosophie, en fait.
Oui. C'est, voilà. C'est... Et donc, bon, ça, la plupart du temps, fonctionne. Là, j'ai 160 élèves, il y en a 3 qui se sont plaints, quand même. Donc,
Et tu qualifierais ton enseignement de subversif, ou tu considères qu'il peut être subversif? Tu comprends qu'on puisse considérer qu'il puisse être subversif?
Ouais, j'avais écrit ça à un moment, l'enseignement, ça doit être subversif, quoi. L'enseignement de la philosophie, ça doit être subversif.
Ouais, d'un autre côté, si l'enseignement de la philo, c'est pas subversif, c'est l'apprentissage d'empilement de systèmes et de dates et de textes, ça risque d'être outre particulièrement chiant.
Ouais,
plutôt la mort de l'intelligence, quoi.
Tout à fait. Donc, c'est vrai que voilà, je suis plutôt dans cette perspective-là. Plutôt libertaire, voilà, donc avec les élèves qui s'y retrouvent,
Ouais. Je pense. Justement, je crois qu'il y a eu une manif à Poitiers pour te soutenir.
Oui.
Et ça marchait, il y a eu combien de personnes
Il y avait 200 personnes.
200 personnes, c'est pas mal, hein. Ouais.
Mais il y a aussi, je mets ton cas en lien avec le cas d'un postier dont on a parlé moultement ici et nous l'occasion de rencontrer la semaine dernière, un fonctionnaire qui est révoqué, qui est révoqué sur des choses pas qui ont lieu, qui relèvent du pénal, comme toi, hein, ouais. Apologie du terrorisme, mais qui relève vraiment de la stricte obéissance, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, il semble acquis. Dans les esprits et dans quand même, on va dire, les hiérarchies syndicales, parce que c'est quand même assez impressionnant que ton affaire n'ait pas créé plus de barouf dans la communauté de l'éducation nationale, mais que le fonctionnaire, eh ben, il doit appliquer bêtement, sans réfléchir, et fermer sa bouche, quoi.
C'est ce que m'ont dit les inspecteurs, ils ont dit un fonctionnaire, ça fonctionne.
Oui, voilà.
Ouais. Bon, j'ai pas polémiqué, mais j'avais envie quand même. Parce que, ben non, moi je pense pas. Enfin, ou alors, si un fonctionnaire fonctionne, ça nous renvoie dans
des trucs bien
créés, dans des temps plutôt obscurs, quoi.
Un peu obscur, ouais.
D'autant plus quand on nous fait l'apologie 2 ans avant ou 1 an avant d'un bouquin qui s'appelle Indignez-vous et d'un papy qui est entré en confrontation. On est complètement schizophrène, là.
Ah oui. Mais c'est sûr, oui, là, rien comprendre. De toute façon, les directives pour les profs de philo sont claires. Hein, apprentissage de l'esprit critique, culture philosophique, et puis, bon, esprit critique d'abord, et jugement critique.
Ouais.
Donc, voilà, hein, c'est...
On va bien.
Bon, comment tu vois la suite et comment ça va d'ailleurs moralement? Parce que tu disais, ça a été quand même un truc qui est tombé comme ça, et parfois ça peut être un peu délicat, quoi. Bon, tu n'es pas seul, donc c'est le principal.
Non, mais... je suis pas seul. Beaucoup de soutien sur le banc. Après, les nouveaux les moyens de communication, genre Facebook, les pétitions en ligne, tout ça, ça fonctionne bien.
Il y a une pétition en ligne?
Oui, il y a une pétition en ligne, mais je ne sais plus si elle y est encore, mais bon, il faut taper pétition Chazran, et puis peut-être que...
On devra arriver à quelque chose.
On tombe dessus, mais bon, après, c'est un détail, parce que mon souci, vu les autres affaires qui sont enterrées sur Poitiers, parce que tout le monde se connaît sur Poitiers, donc c'est enterré, donc mon souci, c'était bien que ça monte au niveau national, quoi.
Ouais.
Et c'est monté au niveau national.
Ouais, c'est monté.
Donc, voilà.
Bah écoute.
Bon courage. On espère que la petite émission, elle aura l'occasion de faire un peu plus de barouf et de bien provoquer la gêne du côté du rectorat, parce que c'est eux qui doivent être emmerdés là-dessus, c'est pas toi.
Oui.
Ça c'est clair. Que justement on puisse leur demander des comptes. D'ailleurs, il pourrait pas être stupide de proposer à nos auditeurs qui auraient éventuellement des questions et qui auraient une indignation par rapport à ça d'appeler le rectorat de Poitiers. Demander des explications, il y a pas de souci. Et puis on aura peut-être l'occasion de se retrouver. Hein.
De toute façon, on va suivre l'affaire. Hein.
Oui, tout à fait, parce que bon, il va y avoir des suites. Et puis moi, ce qui m'intéresse, ce sont les suites, c'est-à-dire. Là, c'est plutôt pas les suites. La suite.
Oui, la suite. Ouais.
La suite, quoi. C'est-à-dire que vraiment d'arriver à bouger, faire bouger les choses.
Ouais.
Parce que là, on était vraiment dans un truc très, très, très verrouillé. Et si je peux utiliser cette histoire pour déverrouiller les choses et que libérer la parole et qu'on arrive à continuer à faire notre boulot mon boulot de prof, de philo. Qu'on arrive à sortir un peu de ces... je sais pas comment dire, mais vraiment de ce côté totalitaire.
Totalitaire, oui.
Totalitaire.
Oui, bah écoute, on te remercie bien. Et puis, on va suivre l'affaire, ok?
Très bien.
Merci. Salut Jean-François.
Salut.
Or that sympathy sings much louder than violence. They are bitter, they're drained. Eyes of ice stare from figures of flame. Cause they puff-chested, restless, nameless. They've carried their pain to the point of being painless. Numb ones, your new latchkeys of London, soaking up that humdrum that makes them want to run from the state they're in. Powerless, penniless, feathers clipped. They found eagle's wings in the derelict brotherhood of gang life. That bang bang life that shouts louder than a sarcastic teacher clapping hands twice, staring down frightened nose. They learned that respect comes from striking the pose that demands it. But we know respect and fear are not compatible. A long way from battle, they don't play. They let daggers fall from blood-soaked fingers while their siblings lie bleeding and always dead. But like wisdom has always said, blood begets blood and keeps spilling. Payment sustained and our hearts are grief stricken proud here. Cannibal kids wanna be kings, but there ain't no royalty left round here. Sirens and screams fell on the wind, and even the streets are the frame of our footsteps round here. Cannibal kids wanna be kings, but there ain't no royalty, there ain't no royalty here. Sirens and screams fell on the wind, and even the streets are the frame of our footsteps. It goes even the street, even the street, even the street, even the street, even the street. Even the street shudders afraid of our footsteps, and even the street shudders afraid.
panic because of this paranoid panic is seeping through the granite of the breeze blocks, turning our cities into sheep flocks. I pity those who need them, victims of this media machine, and poor souls who've forgotten how to dream. Cutthroat mentalities encouraged in business, they tell us that to be successful got to step onto next. So big money is made through that corporate machine. They're selling water and they're jailing kids for selling couple zoos, but we were born into blood-soaked cities of industry, informed of this savagery, infamy, barbarity of history, controlled, contrived, depressed, detested, stressed out and vexed, and it's a message we've been fed, so that we can propagate this system of division, inhibition, viciousness and contradiction, suckled on the milk today, sour, told the future was ours, and then disemboweled and disempowered, we've been disgraced and deafened and then defamed.
Je crois que maintenant on va parler d'une autre affaire, Jouy-les-Tours. Ça vous dit quelque chose? Peut-être pas.
Oui, effectivement, on va revenir sur ce qui s'est passé le 20 janvier à Jouy-les-Tours, puisqu'on a vécu un phénomène d'emballement médiatique comme la société du spectacle est extrêmement propice à le faire et qui n'est évidemment pas sans lien avec le cas de répression dont on vient d'évoquer avec le cas de Jean-François. Ce qui est aussi intéressant, malheureusement c'est assez rare pour être souligné, c'est que après pratiquement un mois, trois semaines maintenant, il y a des choses qui commencent à sortir et il commence à y avoir un petit début d'embryon de mobilisation dans cette ville pour justement éviter à la fois que le soufflet de retombe, et surtout que parce qu'il y a mort d'homme, cette mort d'homme soit pas passe comme une lettre à la poste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Jouy-les-Tours? Bon, ça c'est pas moi qui va vous le dire puisque non seulement j'y étais pas et en plus je fais avec les éléments que j'ai pu trouver ça et là, et puis on écoutera l'interview d'une membre du collectif de solidarité qui s'est créé à Jouy-les-Tours et qui essaye justement de provoquer la mobilisation là-dessus et puis de revenir et de défendre la mémoire d'un homme. Alors, revenons sur les faits. Donc le 20 décembre 2014, Bertrand Zobanoyo, dit Bilal, un jeune Burundais de 20 ans, aurait, j'utilise le conditionnel puisque là c'est la version des flics que je vais vous présenter, aurait pénétré dans le commissariat de Jouy-les-Tours au cri d'Allah Akbar, Dieu est grand, Dieu est le plus grand en arabe, avant de blesser à l'arme blanche trois policiers. Il sera ensuite abattu. C'est donc cette version qui est présenté dans un premier temps par les forces de l'ordre et qui est immédiatement
reprise par toute la presse. Hein.
C'est ça, et immédiatement relayé par le gouvernement avec deux éléments. Le premier qui est une déclaration du ministère de l'Intérieur qui valide l'aspect terroriste de cet acte et un tweet de Manuel Valls fait part de sa solidarité avec les forces de l'ordre. Truc habituel. Merci, ouais. À noter que d'ailleurs une section du parquet antiterroriste de Paris ouvre une enquête immédiatement. Et puis, on est aussi dans une logique où il y a une succession de faits divers qu'on met en relation immédiatement avec des actes à caractère terroriste. On a par exemple parlé d'un cas d'une personne qui souffre de troubles mentaux qui à Dijon aurait foncé sur la foule avec sa voiture en blessant 13 personnes et qui lui aussi aurait crié à l'Akbar.
C'était avant Charlie Hebdo tout ça.
Ça c'était avant Charlie Hebdo. Hein. Ça c'est le lendemain, on est dans le 21 et quelques jours auparavant, on avait parlé d'un même cas d'une personne utilisant une voiture bélier à Nantes.
C'est ça. Ouais.
Et pendant quelques jours, on va avoir tout un débat sur la radicalisation, les loups solitaires, etc., etc., qui va agiter pendant une semaine
les journalistes.
Les journalistes, oui, et puis créer vraiment un climat de psychose générale, ouais. Qui fait que l'intégralité des experts vont se prononcer sur le risque d'attentat en France ou le risque de présence de djihadistes en France. On n'entendra absolument pas les soignants, puisque, je le répète, les deux personnes qui ont été à l'origine du fait divers utilisant leur voiture étaient des gens qui souffraient pour l'un de schizophrénie, pour l'autre de psychose passagère. Il y a eu malheureusement quelques médecins qui ont essayé, et notamment des personnels qui soignaient, des personnels soignants de ces deux malades-là, et qui ont essayé un petit peu d'apporter d'autres choses, mais malheureusement, voilà. Alors, évidemment, il y a eu une focalisation sur le cas de ce Bilal. Pourquoi ? Parce que sur son profil Facebook, hein, faites attention à ce que vous mettez, on a trouvé l'image d'un drapeau de Daesh, de l'État islamique. Ce drapeau noir avec les inscriptions dessus. Par contre, ce qu'on a oublié de spécifier, c'est le seul élément, hein, pour le moment, qui est dans le dossier du parquet antiterroriste. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est que à côté de ce drapeau, Mounia le dira tout à l'heure, c'est marqué « not in my name », c'est-à-dire pas en notre nom, quoi. C'est fait partie de ces mouvements, en tous les cas, qu'on voit apparaître sur la toile, où les gens prennent position comme ça. Donc c'est déjà, d'une part, quelque chose d'intéressant à souligner. Alors, au bout de quelques jours, quand même, par les informations qu'on pouvait recueillir, quand on était quelqu'un de sérieux, c'est-à-dire surtout pas journaliste, eh ben, on s'aperçoit que cette version, elle est vraiment extrêmement bancale.
Elle tient pas, oui, effectivement.
Premièrement, on a des images qui montrent le corps de Bilal sur les marches du commissariat. Ça, c'est les premières choses qu'on va avoir. C'est quand même étonnant, puisqu'on nous a dit qu'il avait attaqué les policiers et pénétré à l'intérieur. Deuxième chose, on a des témoignages qui disent que Bilal n'est absolument pas entré de son plein gré au commissariat, mais que passant à proximité, il a été interpellé par des membres des forces de l'ordre qui l'ont fait rentrer de force, et qu'à partir de ce moment-là, l'interpellation dégénérait. Pourquoi Bilal aurait été interpellé ? Parce que la veille, au soir, il y aurait eu des incidents dans un quartier de Joué-les-Tours, et Bilal est connu dans le quartier comme étant un peu une sorte de grand frère, de quelqu'un qui a une autorité sur les jeunes, et il apparaît que, en tous les cas, c'est ce que affirment les membres de la famille de Bilal, c'est que les flics auraient fait pression sur Bilal pour qu'il donne les noms des jeunes qui étaient impliqués, vu qu'il connaît tout le monde, il avait vocation à jouer la balance républicaine. Hein. Malheureusement, Bilal n'est pas fonctionnaire, lui, contrairement... Et donc, il a le droit de ne pas balancer s'il veut. Et troisième élément aussi, extrêmement intéressant, on s'aperçoit que parmi les trois policiers impliqués, Bilal a été abattu de 5 balles. Parmi les trois policiers impliqués dans le fait divers, vous voyez, je surveille mes propos pour éviter la diffamation, eh bien, il y en a un qui a été condamné il y a quelques mois à 1500 euros d'amende pour avoir fait usage de sa bombe lacrymogène de façon disproportionnée en août 2013. Et là, effectivement, on se rappelle que, pour ceux qui ont l'habitude de voyager sur Internet, que
Il y avait eu déjà à jouer les tours quelques trucs qui nous faisaient penser ou qui pouvaient nous laisser à croire que les relations entre une certaine partie de la population et la police n'étaient pas forcément au beau fixe. Et on s'aperçoit aussi que on peut être condamné en août 2013 pour avoir fait usage de sa bombe lacrymogène de façon disproportionnée et frapper avec sa matraque à plusieurs reprises une femme à terre et continuer à exercer non seulement dans les mêmes conditions mais on dirait dans les mêmes secteurs quoi. On imagine comment on peut faire ça avec ce genre de méthode avoir une paix sociale qui est parce qu'en plus là il est condamné hein, pour une fois qu'il y a une flic condamnée quand même
c'est
faut le souligner.
Faut le dire.
Enfin bon, voilà, ça c'est des éléments que je peux vous donner comme ça parce que ce sont des éléments qui sont aujourd'hui sûrs. Ce qui est également sûr, c'est que la famille de Bilal a décidé de ne pas se laisser faire. Malheureusement, on sait très bien que le rapport de force est disproportionné. Mais on va laisser, je pense, la parole à Mounia. Alors, on n'a qu'un quart d'heure parce que les joies de la technique font que des fois, ça marche pas comme on veut. Mais on passera la partie suivante la semaine prochaine. Nous y engageons. Alors, on va voir si notre technicien préféré lance.
Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé à Jouer les Tours. Donc, pour ça, d'abord, plusieurs choses. La mort d'un jeune tué par la police, dans des conditions pour le moins suspectes, on va dire, troubles. Il y a à la fois une version officielle qui dit, et c'est un peu de toute manière ce qui est resté dans l'ensemble des consciences collectives, on va dire, puisque de toute manière ça a été matraqué à la fois par les médias institutionnels et par l'ensemble du pouvoir, puisque les différents ministres, Hollande, etc. se sont exprimés sur ce sujet très peu de temps après les événements. Et donc il y a la version officielle. Et puis après, il y a toute une enquête qui a été faite par les habitants, enfin un collectif qui s'est constitué après la mort de Bertrand Bilal, qui met un peu à mal la version officielle. Et donc c'est avec Mounia, nous allons pouvoir réaborder ce sujet pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. À vrai dire, vous allez voir, c'est assez compliqué. Bonjour Mounia.
Oui, bonjour.
Donc peut-être pour commencer, nous allons parler de ce qui s'est passé à Jouer les Tours. Bah, le mieux, c'est que je te laisse te présenter.
Donc moi, je suis une militante sur Tours au sein d'un collectif contre le racisme, on va dire dans sa dimension surtout institutionnelle, inscrit politiquement contre les politiques discriminatoires et répressives. Et donc c'est à ce titre que au départ, forcément, je réagis à la nouvelle de la mort de Bertrand Bilal, de Abonayo à Jouer les Tours, et que je vais sur le terrain à la rencontre des personnes qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu, de sa famille, etc., pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà.
Il y a un collectif qui s'est créé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, tout de suite, tu l'as intégré. Alors,
c'est ça. Oui, je participe effectivement à la création de ce collectif, enfin, tout simplement, hein, qui est constitué de justement toutes les personnes, les proches. Hein. Le noyau du collectif, ce sont quand même les amis très proches de Bertrand Bilal.
Alors, peut-être pour mieux comprendre ce qui s'est passé ce 20 décembre 2014, il est absolument important de reparler de ce qui s'est passé la veille, le 19 décembre.
Effectivement, dans les bruits qui commencent à circuler, enfin ce sont plus que des bruits, hein, mais on va dire dans les contre-versions, dans les contradictions à la version officielle qui sont apportées assez rapidement, il est fait référence à une, on va dire, altercation qui se produit la veille au soir entre un policier bien connu sur la ville, de sinistre réputation, on va dire, hein, connu pour des pratiques violentes, pour son racisme également, qui avait un peu défrayé, on va dire, la chronique à l'été 2013, lorsqu'il avait gazé, passé au tonfa deux femmes en les insultant, deux femmes congolaises. Donc ce policier-là n'a pas été condamné suite aux plaintes portées par ces femmes, par l'une d'entre elles, mais a quand même été condamné à 1 500 € d'amende pour usage de la force disproportionnée, usage excessif de la garde à vue, etc., et a fait appel et sera jugé en appel en février. Et
alors, donc, par rapport à ça, Mounia, quand même, on peut dire aussi aux auditeurs qui peuvent aller sur YouTube, il y a la vidéo
qui circulent de cette altercation, qui est effectivement d'une violence incroyable. Voilà. Il y a une femme à terre et ce policier qui s'acharne sur elle sans aucune raison.
Voilà. Ce même policier se promène, fait son jogging le vendredi soir. Donc il est en civil, hein, il n'est pas en service. Et il s'accroche avec une ou deux personnes, quelqu'un qui fait une livraison, avec qui il se comporte comme il a l'habitude de le faire quand il est en service. Et ça se passe mal, et on en vient aux mains. Et plusieurs personnes s'en mêlent, plusieurs jeunes s'en mêlent. Et il se fait tout simplement casser la figure. Hein. On parle d'une arcade bien explosée, la pommette également. Il est certain qu'il a eu des jours d'ITT dans la foulée, mais par contre, il n'a pas porté plainte, curieusement. Ce fameux policier, qui est quand même vraiment... Bon, qui se comporte en caïd, en fait, dans ce quartier, hein, qui se comporte en cow-boy, en shérif du comté, dit-on souvent, s'est fait casser la figure. Et ça, c'est quelque chose qui est mentionné le lendemain, juste après la mort de Bertrand Bilal, en expliquant qu'il y a un lien très fort et que Bertrand Bilal ne se serait pas rendu en fait de lui-même au commissariat de Jouy-les-Tours, mais aurait été violemment interpellé, un peu en mode sauter dessus, hein, qui dégénère.
Alors, par rapport à ça, il est important de dire que il est avéré que Bertrand n'était pas à Jouy-les-Tours la veille au soir, donc le 19, il était sur Paris, donc il n'a pas pu être responsable de cette altercation.
Il n'est en aucun cas, il ne peut avoir été mêlé à cette altercation. Mais il semble que ce soit au titre de cette altercation qu'il ait été interpellé. Les policiers, en maintenant leur version, disent il y avait aucune, il y avait rien qui avait été demandé officiellement contre Bertrand Bilal. Mais il semblerait qu'en passant à proximité, alors voilà, il passe tranquillement à proximité du commissariat, il va au kebab, il en sort, et il aurait été interpellé à ce moment-là et aurait en fait tout simplement demandé à pouvoir se rendre dignement, sans entrave, au commissariat, alors que, en fait, les policiers qui lui auraient sauté dessus ont essayé de le contraindre. On parle de deux choses, hein. On parle d'une clé d'étranglement et d'une balayette.
Voilà. D'accord, alors là, il y a deux versions. Il y a à la fois la version officielle, alors la version officielle, c'est celle qui est donnée par la police, c'est que Bilal s'est rendu spontanément seul à l'entrée du commissariat dont il a secoué les portes avant qu'un adjoint de sécurité ne vienne lui ouvrir et le fasse pénétrer dans le sas d'entrée. Donc là, il avait visiblement un couteau à la main et c'est là qu'il aurait blessé au visage, entre autres, des policiers. Ça, c'est la version officielle. Maintenant, cette version officielle est contestée. Elle est contestée à la fois par de nombreux témoins.
C'est ça. Les personnes qui habitent Jouy-les-Tours savent dans quelles conditions on peut ou on ne peut pas entrer au commissariat. Hein, donc ça, c'est une première chose. On n'a même pas besoin de témoins. Tout le monde peut aller le vérifier. Sas d'entrée, deux portes vitrées, il faut sonner. Il faut d'abord être observé, expliquer à travers un hygiaphone pourquoi on vient, etc., etc. Donc là, quelqu'un qui sonne, mais au-delà de sonner, qui secoue violemment la porte d'entrée, c'est un petit peu difficile d'imaginer qu'on lui ouvre comme ça sans aucune précaution. Mais dans un deuxième temps, effectivement, il y a plusieurs témoins. Alors, déjà, un premier témoignage qui passe à visage découvert sur toutes les chaînes le soir même, de quelqu'un qui dit... J'ai vu, les policiers ont voulu forcer le monsieur, ont voulu faire entrer le monsieur. Il dit bien ça, hein. Et il dit, il a crié, ah, voilà, il a poussé un grand cri. Donc là, on a déjà, ça contredit déjà les deux points principaux, hein, de la thèse officielle, à savoir qu'il est venu de lui-même pour agresser, avec l'intention d'agresser, dans une intention qui aurait un caractère terroriste. Cette accusation-là puissante, elle va être portée sur le fait qu'il aurait, selon la police, crié à la Wakbar. Ce jeune homme qui témoigne dès le soir même sur toutes les chaînes filmées, dit il a crié « Ah ». Il a crié « Ah ». Et c'est les témoignages sur place qu'on a pu recueillir disent la même chose, à savoir qu'il a, il a poussé un cri de rage, un cri de douleur, mais absolument pas ce dont on l'accuse. Et c'est ce cri pourtant à la Wakbar qui motive ensuite... l'accusation de agression, voire attentat à caractère terroriste à l'arme blanche, en effet.
Il y a donc de nombreux témoignages qui attestent d'une autre version. Puisque je vais les lire, hein, puisque on peut les retrouver sur La Rotative, qui est un site internet d'information sur Tours et ses alentours.
Voilà.
Alors, des flics ont vu Bilal et ont cru que c'était lui. C'est-à-dire la personne qui aurait été responsable de l'agression du flic Loïc la veille. Ils l'ont interpellé de force. Bilal s'est débattu. Un flic lui a mis une balayette. Bilal a vu rouge et les a plantés. La suite, vous la connaissez. Après, un autre témoignage. Ils ont été au kebab de Jouet, centre, pour chercher qui avait agressé Loïc. Ils ont ramené Bilal sans preuve au poste et de là, tout a dégénéré. Aucun témoignage n'a été fait et ils se sont mis à deux ou trois sur lui et l'ont balayé. Il a voulu se défendre en sortant son couteau, sentant que la situation dégénérait. Des témoins sur place affirment que Bilal ne s'est jamais présenté de son propre chef devant la porte du commissariat, mais que ce sont bien des policiers qui l'ont traîné de force devant le commissariat.
Les témoignages convergent sur cette version-là, hein, qu'il a été emmené de force.
Et très important, effectivement, ce que tu rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à aucun moment, les témoins n'ont entendu Bertrand Bilal dire à la Ouagbar, pas du tout. C'est effectivement un cri d'épouvante, de souffrance qu'il a exprimé et qui a été transformé par la suite par Ala Ouagbar, pour lui donner un caractère terroriste islamique, puisqu'on est dans cette période-là. Ça s'emballe extrêmement vite, puisque alors qu'il n'y a aucune instruction, alors qu'on ne sait pas la situation, la réalité de la situation, l'ensemble des médias commence à véhiculer la version officielle, la version des policiers, qui va être colportée, puisque elle va être corroborée par nos responsables politiques.
Ah oui, alors ça, oui, ça, bon. Dès que la nouvelle passe, effectivement, tourne en boucle, et dans les 3 heures qui suivent, Cazeneuve est sur place pour faire la conférence de presse avec le procureur de la République, effectivement, en étayant complètement cette thèse, et bien sûr, soutien conditionnel aux policiers, et corroboration de la thèse, à tel point que, de toute façon, l'affaire est qualifiée tout de suite et remise entre les mains du parquet antiterrorisme à Paris, ce qui est sur les bases les bases objectives qui existent à ce moment-là, c'est quand même assez énorme, c'est vraiment une manière, enfin nous sommes un certain nombre en tout cas à interpréter ça comme une manière de mettre le paquet, hein, le maximum pour à la fois légitimer, justifier cette mort, hein. Voilà, c'était un terroriste. Il est accusé avant enquête, en fin de compte, hein, en diligentant ce type d'enquête. On est dans le cadre d'une procédure d'exception. On met tous les moyens d'un côté, en fin de compte, de l'autre, la famille, et qui a quand même perdu un enfant, un frère, se retrouve un petit peu privée de tout droit de regard sur l'affaire, se retrouve, en fin de compte, elle-même suspecte. C'est-à-dire qu'en portant cette accusation de terrorisme, de façon aussi massive, aussi implacable, dans les 3 heures, en faisant intervenir le ministre de l'Intérieur, avec Valls derrière qui fait sa petite déclaration également, nous ne tolérerons pas qu'on touche évidemment aux forces de l'ordre et nous serons d'une sévérité exemplaire. La famille est elle-même terrorisée, suspecte. Sa sœur est mise en garde à vue quand même, hein, pendant 48 heures d'entrée de jeu. Ses amis sont perquisitionnés. Tout le monde est terrorisé. Tout le monde dans son entourage est terrorisé. Ça donne un petit peu quand même le sentiment, tout ça, que tout est fait pour que on n'aille surtout pas s'interroger sur la possibilité qu'il y ait eu effectivement un dérapage, une violence policière, une bavure. L'important, c'est de dire que les policiers ont tué en légitime défense. Mais ce qu'on aurait pu faire, hein, ça pouvait tout à fait être dit, même sans porter l'accusation de terrorisme. Non, là, vraiment, on met tout le paquet pour que vraiment ce jeune, on n'aille pas s'imaginer une seconde il n'ait pas pu mériter sa mort.
C'est-à-dire que, à la fois, on couvre les violences de la police, enfin, l'État couvre les violences de la police, sans absolument qu'il y ait aucune enquête, sans savoir de quoi ils parlent, ils couvrent la police, et en plus, ils en font une affaire de terrorisme pour à la fois de toute manière sauver leurs forces de l'ordre, mais en même temps accréditer la thèse d'un ennemi intérieur qui serait partout, C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a quand même, il joue sur les deux tableaux, quoi.
Tout à fait. En même temps, le mécanisme, on le sait, hein, il est quand même classique. Il est démontré à travers plusieurs enquêtes, au terme de beaucoup d'affaires et de beaucoup de mobilisations. Il y a le livre Permis de tuer qui est sorti récemment, qui montre ce mécanisme qu'on retrouve exactement ici, comme on le trouvait récemment pour Rémi Fraisse. C'est-à-dire que pour Rémi Fraisse aussi, on commence dans un premier temps, la version qui circule, c'est qu'on a trouvé quelqu'un, on ne sait même pas qui, au début la police a trouvé un corps, et tout de suite on commence à dire qu'il était peut-être lui-même responsable de sa mort, puisqu'il avait très certainement un sac à dos, avec très certainement un explosif dedans, voilà. Il a fallu quand même du temps pour que les choses petit à petit commencent à s'éclaircir. Et là aussi on portait donc finalement, on portait cette fameuse accusation. On commence toujours par délégitimer, tenter de délégitimer, de disqualifier la victime. Donc pour Rémi Fraisse, là aussi on parlait, si vous vous souvenez, on parlait de terrorisme vert en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc là, on se contente pas comme à l'accoutumée quand il y a un mort comme ça entre les mains de la police. De dire, par exemple, eh bien, c'était quelqu'un qui était bien connu des services, un délinquant, etc. Avec Rémi, c'était, oui, c'était un activiste. Et là, c'est carrément un djihadiste ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, quelqu'un qui agit avec ce fameux référentiel religieux et en obéissance à l'État islamique qui aurait ordonné à ses suppôts de passer à l'attaque des forces de police. Également en lien avec une histoire de Facebook où il y aurait l'étendard du drapeau islamique, mais où il y avait aussi un like sur la page État islamique, pas en mon nom. Donc là, on retient ce qu'on veut. Hein.
Oui, alors, dans la foulée, vite fait, mais ça va être vite fait, on y reviendra plus, un peu plus tard, début janvier, un habitant de Givet, dans les Ardennes, qui emmenait son père se faire hospitaliser en Belgique, comme c'est beaucoup le cas dans cette partie des Ardennes, se fait interpeller par des gendarmes ou des policiers dans le coin de Dinan, alors qu'il a un problème sur sa voiture. Ça dégénère un petit peu entre lui et les policiers. Il est emmené au commissariat ou à la gendarmerie pour rébellion et, au stupeur, on découvre dans le coffre de sa voiture une clé USB contenant les plans de la centrale de chaux et, soi-disant, un Coran. Tout de suite, pareil, le terroriste islamique, parce qu'en plus il s'appelle Karim, donc voilà. Et donc, il est passé en procès à Dinan ces jours derniers. Donc, il a l'équivalent, en fait, d'une mise à l'épreuve de 3 ans, je sais plus quand le terme belge, c'est un non prononcé de jugement, je crois, pendant 3 ans, pendant lequel il n'y aura rien sur son casier judiciaire s'il ne se fait pas parler de billes pendant ces 3 ans. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, c'est simplement pour rébellion aux forces de l'ordre et qu'il n'y a rien sur le reste de l'histoire. Voilà.
Et l'histoire, le reste de l'histoire, on sait un peu?
Ben, en fait, il était planificateur en centrale nucléaire, donc ce qui est normal, qu'il ait les plans de la centrale de chaux. Et le fait que le Coran, c'était pas du tout le Coran, c'était un livre pour combattre, justement, comment combattre les djihadistes. Voilà.
Ah ben, mais les forces de l'ordre ne comprennent pas l'arabe.
Venir a punto di una logica feroce, di una logica della razionalità del capitale. La globalizzazione, il neoliberalismo, c'è la forma attuale e in prospettiva della dominazione del sistema del capitale, della razionalità economica e della razionalità dell'età. Allora noi non lo consideriamo ni fatale, pas du tout, o non la considérons pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur. Comme ça, il n'y aura pas de...
Allez, c'était les Grégor. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, là où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site OC Libertaire et sur le blog Le Chat Noir.